Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Chères auditrices, auditeurs, Asialogie vous emmène au pays des steppes aujourd'hui, au pays des grandes chevauchées, pays de Gengis Khan et au pays des yourtes.
Tout un programme qui
c'est
me va bien.
C'est la Mongolie.
Oui, très bien ça.
Et toi Didier, tu vas tout nous dire sur la cuisine mongole et ses boissons un petit peu spéciales.
Oui, il y a quelques particularités qui sont bonnes à signaler.
Oui, tout à fait.
D'accord, alors bon. Comme toujours, Corinne, on va d'abord planter le décor. Le décor, on le voit un petit peu, j'ai vu dans les magazines, tout ça. Parle-nous de sa géographie et de son climat, cette Mongolie qu'on évoque aujourd'hui.
Oui, donc c'est vrai qu'on a l'image des steppes, des yourtes et tout ça, mais la Mongolie est un pays de contraste.
D'accord.
Enclavé, alors c'est important de rappeler où elle se situe, entre la Russie au nord et la Chine au sud.
Oui.
Des voisins très puissants.
C'est ça.
Avec environ 1 566 000 km², elle est plus de 3 fois plus grande que la France, pour qu'on se donne une idée.
Oui.
Mais elle compte seulement 3 56 000 habitants.
Ça voilà, fait 20 fois moins habitants que la France.
Voilà, ce qui en fait l'un des pays les moins peuplés de la planète.
Il y a de la place.
Alors sa capitale et sa plus grande ville, c'est Oulan-Bator.
Oui, ça jusque-là, d'accord, je te
suis. Qui compte près de la moitié de la population nationale.
Ah oui, il y a vraiment de la place autour de Ulaanbaatar, quoi.
C'est exactement ça.
D'accord.
Donc la Mongolie se trouve sur un plateau d'altitude élevé, quand même, avec une altitude moyenne d'environ 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer.
D'accord, jusque-là je ne suis pas surpris.
Il y a des hautes montagnes à l'ouest et au nord-est, ce sont les fameux monts Altaï.
D'accord.
Et il y a bien sûr avec des forêts boréales dans ces montagnes. Mm-hmm. Et au centre, c'est la fameuse steppe. Et au sud-ouest, le terrible désert de Gobi.
C'est clair.
Avec son paysage aride de roches et de dunes.
Bien sûr.
Et les fleuves du nord-est s'écoulent vers l'océan Pacifique, tandis que ceux du sud, ils vont mourir dans le désert et dans des lacs.
D'accord.
Alors, le climat de la Mongolie est l'un des plus continentaux du monde. Et ça signifie des hivers très longs et très froids, souvent bien en dessous de moins 30 quand même.
Oui, c'est froid,
pas facile.
Comme tu dis.
Et les étés sont courts et chauds, et peuvent être même très chauds, surtout dans le sud désertique.
Oui.
Alors globalement, peu de pluie, limitée à l'été, et bien sûr plus abondante dans le nord avec les forêts que dans le sud désertique.
On imagine bien, oui.
Alors ce climat très difficile est à l'origine du dzoud. C'est un phénomène particulier de succession de sécheresses estivales et d'hivers très froids, avec des neiges très épaisses qui bloquent l'accès à l'herbe pour les animaux, et ce qui cause des mortalités massives parmi les troupeaux. Donc ils ont ce phénomène climatique très compliqué à vivre.
J'imagine, oui. Alors du coup, là on a parlé de la géographie, quelle flore et quelle faune y trouve-t-on ?
Alors, malgré son climat très dur, la Mongolie présente une diversité importante. Il y a plus de 4000 espèces végétales.
D'accord.
Et il y a énormément de plantes médicinales. 1100 plantes recensées.
Ah oui.
Et les zones de steppe sont dominées par des herbes qui sont résistantes à la sécheresse.
D'accord.
Et puis dans les montagnes, on trouve des conifères, des alpages et puis des plantes alpines, un petit peu comme chez nous.
Oui, j'imagine.
Alors concernant la faune, elle est riche et adaptée à la rudesse du climat. Et on y trouve des mammifères sauvages, bien sûr, des marmottes, des gazelles de Mongolie, des argalies. Argali, c'est une variété de moutons sauvages, un petit peu comme le taquin, tu te souviens ?
Parce que là, ça, je ne l'avais pas. Okay.
Voilà, Argali. Il y a des léopards des neiges.
Ouais.
Alors, je ne sais pas comment on le prononce, mais ça m'a fait sourire. Des culans ou culanes, qui sont des ânes sauvages.
Ok, là aussi, je ne connaissais pas.
Moi non plus. Il y a bien sûr des chameaux bactrianes.
D'accord.
Et quelques ours, les ours du Gobi, qui sont très rares.
D'accord.
Voilà. Beaucoup d'oiseaux aussi, dont de nombreux rapaces.
Oui, ça
sympa. Oui, parce que ça a l'art des...
Bien sûr.
La fauconnerie.
Oui, c'est ça.
Et plus de 70 espèces de poissons, dont des saumons, dans les lacs et les rivières.
Okay.
Alors le plus important, c'est important de le souligner, c'est la population de bétail domestique qui dépasse largement la population humaine, car elles constituent la base de l'économie rurale traditionnelle. Oui. Alors, ils sont appelés les cinq museaux. Ah, c'est mignon, ça, d'accord. Je trouve. Ce sont les moutons, oui. Les chèvres, les yaks, ouais. Les chevaux et les chameaux bactrianes.
D'accord.
Les cinq museaux.
Ok. J'imagine que son histoire, et j'en suis même sûr, est aussi très riche et tourmentée. On en a déjà un petit peu parlé.
Oui, on en a un petit peu parlé et nous en reparlerons, Didier. Oui. Alors la Mongolie, comme la Chine, a été peuplée dès la préhistoire et je vais faire un grand saut. Hein.
Oui.
Jusqu'au XIIIe siècle, plusieurs peuples nomades ont successivement dominé la région. C'était habité par des peuples nomades qui vivaient un petit peu, je dirais, au cours des siècles, un peu de la même manière.
Okay.
Et puis, il y a ensuite l'âge d'or de l'Empire mongol à partir du XIIe siècle.
Et oui, on imagine.
Du XIIIe siècle même, avec Gengis Khan,
oui.
Qui a unifié les tribus mongoles pour fonder le plus grand empire de l'histoire humaine. Alors, sous son règne, et c'est là-dessus qu'on reviendra, bien sûr. Et celui de ses descendants, l'Empire mongol s'étendait du Pacifique à l'Europe, quand même, et connectait les vastes régions d'Eurasie, ce qui a énormément facilité les échanges culturels et commerciaux par la fameuse route de la soie dont on a parlé il n'y a pas si longtemps.
C'est vrai.
Alors, après la mort de Gengis Khan, l'Empire s'est fragmenté progressivement en quatre grands khanats qui englobaient plusieurs des pays d'Asie d'aujourd'hui. Mmh. Mais ça, c'est pareil, nous y reviendrons.
Bien.
Et ceci, donc je vais faire un grand saut encore dans le temps pour arriver à la période du XVIIe siècle jusqu'à 1912, avec la mise sous tutelle de la Mongolie par la dynastie Mandchou des Qing de Chine. Voilà, donc 300 ans ou un petit peu, à peu près, de domination mandchou chinoise.
Ouais.
Et c'est seulement entre 1911 et 1921 que la Mongolie extérieure aura son indépendance grâce à l'aide de la Russie tsariste.
D'accord.
Alors on arrive donc à l'époque moderne, avec en 1924 la création de la République populaire de Mongolie, alliée à l'Union soviétique, devenue socialiste.
D'accord. Alors, qu'est devenue la Mongolie après 1924? Alors, pourquoi tu as parlé de Mongolie extérieure? Ça, j'ai pas bien compris.
Eh oui, il y a la Mongolie intérieure,
d'accord,
qui est chinoise, d'accord, qui est donc en Chine, depuis le XVIIe siècle, avec la tutelle des Qing.
Oui.
Alors aujourd'hui, c'est un territoire autonome chinois, un peu comme le Tibet, mais peuplé de Mongols.
D'accord.
Voilà. Et donc après 1924, lorsque la Mongolie extérieure est devenue la République populaire mongole, ses relations avec la Chine se sont tendues, car la Chine considérait depuis longtemps la Mongolie comme une région historiquement liée à son territoire, bien sûr. Et la Mongolie s'était un peu trop rapprochée de l'URSS pour garantir son indépendance. Alors oui, depuis le XVIIe siècle, c'était un peu chinois. On peut le dire.
Oui, je comprends.
Alors après la guerre froide, les relations vont se normaliser avec la Chine progressivement, jusqu'à devenir, je dirais pas harmonieuse aujourd'hui, mais en tout cas apaisée. Voilà. Donc ils sont, il y a beaucoup d'échanges commerciaux entre la Mongolie et la Chine, beaucoup de tourisme. C'est des relations, on va dire, apaisées.
Ok. D'accord.
Bon moi je vous propose d'écouter un petit peu des chansons.
Ah oui.
Une chanson mongole, mais une chanson un peu moderne, je crois, Didier.
D'accord.
Et je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, je ne sais plus. C'est difficile aussi, à trouver.
C'est du groupe Buriata.
Buriata.
Oui, Buriata.
Alors, merci, Didier.
Je ne connaissais pas personnellement, mais on va découvrir ensemble.
Bon, découvrons Buriata alors. Thank you.
Alors, Corinne.
Oui.
Donc, aujourd'hui, quel modèle politique ont-ils, s'il te plaît ?
En 1990 et après la chute de l'URSS, le pays a mené sa transition vers une démocratie.
D'accord.
Avec une économie de marché. Et la Mongolie est aujourd'hui une république démocratique parlementaire avec un président élu pour 6 ans pour une seule fois.
Ouais.
Ah oui. Au suffrage universel.
Ok.
Donc ça, on le sait peut-être pas.
Enfin, non,
moi,
c'est
je
vrai.
Le savais pas.
Non,
j'ai
non
découvert
plus,
que
j'avoue.
C'était pour une seule fois.
Ok.
Avec un parlement monocaméral, ça s'appelle le Grand Khoural, et un premier ministre à la tête du gouvernement.
D'accord.
Alors, malgré cette tradition démocratique solide, le pays fait face quand même à des défis comme la corruption, les tensions politiques et les pressions géopolitiques de ces deux puissants voisins. On s'en doute quand même. Mais la Mongolie, membre de l'ONU, a maintenant adopté une politique de neutralité et d'équilibre. Et elle cherche à diversifier ses relations au-delà de ses deux voisins.
J'imagine
je vais pas se cantonner.
Bien.
Les à
comprends
ça.
Bien.
Et notamment, elle a des relations avec le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis. Et cette orientation, elle l'appelle la diplomatie du troisième voisin.
Bien. D'accord.
Et nous, on en fait un peu partie. Hein. Faut pas oublier qu'il y a une grande exposition l'année dernière, je crois, à Nantes sur Gengis Khan.
Oui,
et ça avait
c'est
été.
Maintenant que tu le dis.
Tous les objets avaient été prêtés par le Musée national.
D'accord.
De Mongolie.
Ok.
Voilà, donc on est un peu partenaire culturellement parlant avec la Mongolie.
Bien. Voilà, on parle du plan politique, mais et sur le plan économique, de quoi les Mongols disposent-ils comme ressources en fait ?
Ils ont des ressources naturelles, hein,
oui.
Comme dans la région, beaucoup.
Oui.
Et l'économie mongole repose sur l'exploitation minière,
ah,
le
oui.
cuivre, voilà, l'or, d'accord. le charbon, les terres rares et l'uranium.
Okay.
Exploitation qui représente une part dominante du PIB. Quand même, avec des exportations surtout vers la Chine, donc ils sont quand même très liés
d'accord.
économiquement. Alors, l'élevage nomade reste essentiel malgré sa vulnérabilité due au dzoud.
Oui.
Et actuellement, le pays s'efforce de diversifier son économie par le tourisme avec la valorisation des steppes, de la culture nomade et de ses festivals.
D'accord.
Alors, le gouvernement investit aussi dans l'agro-industrie, dans les énergies renouvelables et des projets liés au climat, car il y a beaucoup, beaucoup de pollution à Oulan-Bator.
Ah oui,
oui.
D'accord. Que peut-on dire, Corinne, sur la composition de la société mongole maintenant ?
Alors, sur le plan démographique, en 2025, la population est d'environ, donc, comme je vous le disais, 3 056 000 habitants.
Okay.
Et elle représente 0,04% de la population mondiale.
Oui, c'est pas dominant.
La densité est de 2 habitants par kilomètre carré. Alors, pour info, en France, c'est 121 habitants par kilomètre carré.
D'accord.
Hein, donc voilà. Et donc 67% de la population vit en zone urbaine, principalement à Oulan-Bator, qui concentre donc la moitié de la population.
Oui.
Alors la moyenne d'âge, très jeune, 27 ans.
Ouais.
Chez nous, c'est 43, pour vous donner une idée, chers auditrices et auditeurs.
Okay.
Alors seuls 5% de la population a plus de 65 ans.
Ah oui.
Chez nous, c'est 20%. Donc on est quand même très vieux en France, hein. Et l'indice de fécondité est d'environ 2,5 enfants par femme, ce qui veut dire que le taux de croissance est positif.
Ah bah ils ont armé là-bas. Hein.
Voilà, c'est ça.
C'est ça.
Et quant à l'espérance de vie, donc elle est quand même beaucoup plus faible que chez nous, elle est de 77 ans pour les femmes.
Voilà.
Le climat est très rude, les conditions de vie sont rudes.
Et si qu'il y a moins de personnes âgées aussi. Hein,
c'est ça. Et de 68 ans pour les hommes. Donc la population est à 90% mongole, 3,5% kazakh et pour le reste de très petits groupes turcs, russes ou chinois.
Mmh.
Alors la langue officielle c'est le mongol, parlé par la majorité, hein, vraiment.
Ouais.
Et la religion principale est le bouddhisme tibétain, mais beaucoup disent ne pas avoir de religion ou pratiquent le chamanisme.
Mmh.
Alors l'islam comme le christianisme sont très 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 minoritaires.
Okay.
Alors, autre chiffre important, je trouve, c'est l'alphabétisation qui est élevée, très élevée même, on peut dire. 98%, c'est l'équivalent chez nous.
Ah oui, j'avais pas pensé, c'est beau.
Voilà.
Hein,
oui, c'est beau.
Effectivement. Bon, alors maintenant, on fait en revue à peu près tout, hein, vous avez bien compris. Là, on va passer, si tu veux bien nous parler, Corinne, de leur habitat.
Oui,
et
alors...
comment s'est fait une yourte ? Parce que je pense que tous, on sait qu'ils vivent...
Beaucoup
peut-être pas
vivent
principalement,
dans les
yourtes. Mais dans des yourtes, voilà.
Bah oui, parce que 30% des Mongols ont un mode de vie nomade.
Oui. Et encore aujourd'hui, alors.
Voilà, voilà. D'accord. Et il existe aujourd'hui deux grands types d'habitat, la yourte et l'habitat urbain. Mmh. Alors, la yourte, c'est une tente circulaire démontable, conçue pour les déplacements fréquents. Elle est constituée d'un treillis en bois pliable pour les murs et avec des perches qui convergent vers un anneau central sommet pour soutenir la structure. Il y a un petit trou en haut pour la lumière et la ventilation. Alors, l'ensemble est recouvert de plusieurs couches de feutre, fabriquée à partir de laine de mouton pour isoler du chaud et du froid.
D'accord, bien sûr.
Et puis, il y a une toile extérieure imperméable. Et puis, au centre, c'est là que se trouve peut-être le problème de la pollution. C'est un poêle à charbon ou à bois qui sert pour le chauffage et la cuisson. Bon, il y a l'électricité dans les yourtes.
Ah oui, hein.
Elle est fournie par des panneaux solaires ou des générateurs.
D'accord.
Alors, la porte est toujours orientée vers le sud, pour éviter les vents froids du nord.
Bien sûr.
Et l'intérieur de la yourte répond à une symbolique précise. L'intérieur est divisé selon les traditions, avec la partie ouest qui est réservée aux hommes et aux objets liés à l'extérieur,
d'accord,
comme les selles et les outils. Et la partie réservée aux femmes et aux ustensiles domestiques. Il y a deux grandes parties.
Okay.
Voilà. Et puis le fond de la yourte est réservé aux invités et aux hôtels familiaux, aux hôtels des ancêtres.
D'accord.
Alors certaines familles possèdent aussi des petites maisons en bois ou en briques qui sont utilisées pour les périodes qui sont plus sédentaires. Ça arrive.
Ouais.
Et concernant l'habitat des grandes villes, ce sont des appartements construits en grande partie durant la période socialiste.
Oui.
Avec autour des quartiers d'yourte.
Ah oui,
oui.
D'accord.
Souvent des gens très pauvres qui ont un accès limité à l'eau courante, au chauffage et aux égouts.
Ah, ok. Donc, du coup, j'imagine que ces quartiers
de
yourte doivent poser des problèmes d'environnement, en plus
des
conséquences du réchauffement climatique qui doivent être impactées aussi. Quoi.
Voilà. Alors, la Mongolie est très vulnérable au changement climatique.
D'accord.
Avec l'élévation des températures, la sécheresse, la désertification, qui met en péril l'élevage, bien sûr, et qui pousse la population à s'urbaniser, ce qui augmente la population de l'air, de l'eau et des sols.
D'accord.
Alors, la pollution de l'air, c'est le problème le plus grave à cause du chauffage au charbon, parce que la fumée produite par des milliers de poêles provoque des maladies respiratoires, de l'asthme et des bronchites, particulièrement chez les enfants.
Ah d'accord.
Et il y a aussi l'exploitation minière qui pollue les sols et les rivières parce qu'ils utilisent des produits chimiques et puis il y a une extraction intensive et ça contamine l'eau, dégrade les écosystèmes et affecte bien évidemment les éleveurs nomades.
Oui, bien sûr.
Alors la Mongolie, elle fait face aussi à un problème croissant de gestion des déchets, surtout en zone rurale, où ils sont encore brûlés ou abandonnés dans la nature.
Ah,
alors aujourd'hui, le gouvernement mongol et plusieurs organisations internationales travaillent à réduire la pollution en remplaçant les poêles à charbon par des systèmes de chauffage plus propres, en améliorant les transports publics et en développant les énergies renouvelables, comme le solaire et l'éolien.
Très bien. Okay.
Voilà, Didier.
Bon.
Bon, on va refaire une pause musicale. Et là, je pense qu'on va s'initier un petit peu au chant diphonique en attendant qu'on en parle une autre fois.
Voilà, c'est ça. Je voulais quelque chose de très couleur locale, on va dire.
Oui, très traditionnel.
C'est ça.
C'était très sympa.
Oui, voilà. Bon, c'est court, comme d'habitude, sur Asiologie, mais oui.
Ça donne une idée.
Voilà, c'est ça. Je pense que... Bon, on connaît un peu, quand même, ce genre de, oui, de choses, oui, oui, quand on parle Mongolie.
Il y a eu des concerts au Mans, hein.
Oui, oui, oui.
Alors, on en sait un peu plus sur la Mongolie, quand même,
oui,
maintenant.
C'est ça.
Il nous manque quelque chose d'important, Didier.
Ah,
qu'est-ce,
oui,
qu'on mange et qu'est-ce qu'on y boit?
C'est
raconte-nous
vrai,
ça.
On n'a pas parlé de ça.
Non, pas du
Ce
tout.
Ce serait dommage. Alors, l'alimentation et les boissons mongoles sont des particularités qui sont bien sûr liées au climat. On l'imagine bien, au mode de vie nomade et aux ressources naturelles. Du lait, du fait, pardon, des hivers, en fait c'est un lapsus puisque bien sûr il y a beaucoup de lait, des hivers extrêmement froids et très très courts, comme tu l'as déjà dit, la base de l'alimentation repose sur la viande des cinq museaux dont tu nous as parlé tout à l'heure et de leur lait. Alors la viande de mouton est la plus consommée car elle est riche en graisse et fournit ainsi l'énergie nécessaire pour résister au froid. Et elle est utilisée dans de nombreux plats traditionnels, comme, alors là, je suis toujours pas très très doué, mais alors là, le mont mongol, c'est encore pire, buhuz, j'imagine, les raviolis farcis cuits à la vapeur. Un autre plat emblématique, c'est le kuhchur, sorte de chausson frit rempli de viande hachée.
Oui, alors, ça doit être quand même sympa à manger.
Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Le plat le plus spectaculaire, c'est le kor kog. Je l'imagine comme ça la prononciation, de la viande de mouton, je suis désolé, hein, les Mongols me corrigeront, cuite sur des pierres, oui, brûlantes dans un récipient fermé.
Alors, de quels animaux proviennent les produits laitiers, puisque tu as parlé du lait déjà,
Didier. Et oui, voilà.
Et comment les Mongols les consomment-ils, ces produits laitiers? Sous quelle forme?
Alors, les produits laitiers ont une place centrale, hein, vraiment, dans leur alimentation. Ils produisent une grande variété d'aliments à partir du lait de jument, de vache, de yak, de chèvre ou de chamelle. En fait, les animaux dont tu as déjà parlé
les
tout à l'heure.
Les museaux.
Voilà. Par exemple, le thé vert salé au lait et au beurre est très consommé au quotidien. Ça, j'avais déjà vu ça dans les reportages. Il joue un rôle important dans la vie sociale et l'hospitalité mongole. Le lait est aussi consommé frais, bien sûr, ou bouilli, ou sous forme de yaourt. Alors, le lait est aussi transformé en plusieurs sortes de fromages, hein, qui peuvent être conservés très longtemps. Un autre produit laitier important, c'est le arum, une sorte de crème épaisse formée à la surface du lait chauffé. Elle est consommée avec du pain ou des pâtisseries. Enfin, le lait est baratté pour faire du beurre, tout simplement. Et
oui,
du coup,
oui,
les
je
légumes...
Oui, pense que le lait de chamelle, tout ça, c'est, lait de jument, ça doit être très gras. C'est pour ça qu'il doit y avoir une pellicule
j'imagine,
importante.
Hein, j'imagine. Mmh. Alors, les légumes, parce que voilà, on n'en parle pas beaucoup, ça, mais et les fruits, bah, ils sont peu présents, en fait. Hein, vous l'imaginez bien dans la cuisine traditionnelle mongole, bah, c'est trop difficile à cultiver. Tu nous as parlé des conditions climatiques. Hein, mais aujourd'hui, avec les échanges commerciaux, bah, ça se développe un peu, surtout dans les villes, quoi, enfin, à Ulaanbaatar, quoi.
Et quels sont les légumes et les féculents qu'on consomme le plus en Mongolie, Didier ?
Alors, ils sont importés donc de Chine le plus souvent, et les préférés, c'est le chou, la carotte, l'oignon et l'ail. Alors, ces légumes, bah, là, résistent relativement bien au climat et peuvent être conservés longtemps.
Oui, c'est ça.
Bah, ce qui est essentiel durant l'hiver. Hein. Ils sont utilisés dans des soupes, des ragoûts ou des farces des plats traditionnels. La pomme de terre est également un aliment très répandu et aujourd'hui l'un des féculents les plus consommés car cultivé sur place. Elle peut être bon, bouillie, frite ou ajoutée aux soupes ou aux plats de viande pour les rendre plus consistants. Les navets et certaines variétés de courge sont aussi cultivées et consommées, mais un peu moins. Alors aussi du côté des féculents, la farine de blé est très importante dans la cuisine mongole pour préparer bah, les raviolis ou faire des nouilles maison, quoi. On mange aussi du riz, mais surtout dans les villes pour des recettes de cuisine en fait d'inspiration chinoise et russe.
Oui, ils doivent être quand même un peu influencés
c'est
par
ça, bien
les
sûr.
Deux voisins. Alors en dehors du thé salé au beurre, Didier, quelles sont les autres boissons traditionnelles?
Alors,
j'imagine qu'il y en a.
Oui, bien sûr qu'il y en a. Une autre boisson traditionnelle, c'est célèbre en fait, c'est l'érag, un lait de jument fermenté, légèrement alcoolisé, particulièrement consommé pendant les fêtes, et c'est la boisson alcoolisée la plus célèbre en fait de Mongolie.
Oui, on alors, a du mal à imaginer du lait alcoolisé.
Alors oui, là, ça, j'avoue, je ne connais pas. Petite recette. Bon, on remplit, alors, si vous voulez le faire chez vous, hein, mais ça va être compliqué. On remplit de lait de jument un grand sac de cuir ou un récipient en bois. Puis, on le remue des centaines de fois pour favoriser la fermentation. Bah, le résultat, c'est une boisson blanche, légèrement pétillante, avec un goût acidulé. Bah, offrir de l'érag à un invité, c'est une grande marque de respect, Corinne.
D'accord.
Alors, il y a aussi...
Tu fais des efforts.
Oui, l'archi. Une eau de vie obtenue par distillation à partir du lait de vache, de yak ou de jument. Son degré d'alcool est plus élevé que celui de l'érague, entre 10 à 20 degrés, parfois davantage, selon la méthode de distillation en fait. Hein. Bon, bien sûr, il y a des influences extérieures. La vodka est aussi très populaire aujourd'hui, même si elle n'est pas une boisson traditionnelle, vous l'aurez bien compris. Cette popularité vient de la période où la Mongolie était étroitement liée à l'Union soviétique.
Oui, on imagine bien. Et il y a des desserts, Didier, en Mongolie.
Ah oui, tu sais, mon appétence pour les desserts,
oui.
C'est ça. Hein.
Donc tu t'es renseigné forcément. Voilà,
dans la cuisine mongole, il n'y a pas de grande variété de desserts au sens occidental du terme. Hein, mais il existe plusieurs friandises, surtout issues de produits laitiers. L'une des friandises les plus caractéristiques est l'aaarul, un fromage séché très dur, façonné en petits morceaux et séché à l'air pendant plusieurs jours. Il peut avoir différents goûts en fonction des ingrédients ajoutés, comme du sucre ou des fruits.
Ah oui, c'est pour ça qu'il est dans la catégorie
des desserts. Alors, je suis pas sûr que je serais très fan. Hein. Un autre dessert courant, c'est le bortsog, un petit beignet frit qu'on déguste avec du sucre, du miel ou de la crème. Ça me va bien.
Ah oui, ça doit être sympa.
Pour les fêtes, les Mongols mangent beaucoup de friandises, notamment des biscuits, des bonbons ou des fruits aussi. Alors, bon, des fruits secs hein, plutôt, c'est plus simple. Mais ainsi, même si les desserts mongols restent simples, hein, ils occupent une place importante dans les moments de partage. Voilà, c'est un moment de convivialité important pour eux.
Et Didier, c'est fini, Asialogie.
Ah, bon, c'était le dessert, c'est normal.
Oui, c'est ça. Bon, c'est fini, les amis Asialogie. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter samedi matin à 9h30, le mercredi à 13h, et bien sûr aussi en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes, évidemment. Donc on se retrouve jeudi prochain à 12h, toujours sur Radio Alpa. À bientôt.
Asialogie, c'est quand ils veulent, où ils veulent, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est ça, c'est le plus simple, voilà.
Il faut s'abonner, en fait.
C'est ça, c'est le mieux. Allez, on vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine. Thank you.